Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre toute la louange et la reconnaissance pour cette soirée de méditation de ta parole. Merci pour les bien-aimés qui sont déjà en ligne. Merci pour ceux et celles qui vont nous rejoindre tout à l'heure. Prions que ton Esprit Saint puisse nous accompagner, que ta grâce soit sur chacun et sur chacune d'entre nous. Que tout soit pour ta seule gloire, notre Dieu. Éclaire-nous encore. Merci de nous bénir par ta parole et de nous sanctifier à tous égards. Sois loué et sois glorifié. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.
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 Merci beaucoup pour la parole, pour la prière, Papa Edouard. Peuple de Dieu, merci. Bénissons le Seigneur pour nous avoir bénis et conduits dans nos différentes églises hier. Et en tant que peuple de Dieu, nous sommes toujours reconnaissants quand nous célébrons notre Dieu partout où il nous a placés pour le servir. Nous allons écouter la lecture. Nous sommes aujourd'hui toujours en Apocalypse. Nous avons déjà terminé le chapitre 6 hier. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 7 et nous allons lire tous les chapitres qui est composé de 17 versets. Alors, je vais demander à une sœur de nous lire. Sœur Viviane, est-ce que tu peux nous lire le texte?
Oui, permettez que je puisse mettre assez de lumière, parce que ma lumière n'est pas suffisante. Une minute. Okay. Ok. Nous sommes dans Apocalypse, le 7e chapitre.
Ok.
Je vais lire au nom de Jésus-Christ.
Viviane, avant de lire, est-ce que derrière toi il y a de la musique?
Ah, elle monte chez vous, d'accord.
Oui, elle arrive, c'est bien de l'arrêter.
D'accord, là ça va?
Oui, maintenant ça va.
Ok. Je lis Apocalypse 7. Le premier verset nous dit ceci. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre, pour qu'aucun vent ne souffle, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait les sceaux du Dieu vivant. Il cria aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le fond des esclaves de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des Israélites, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Asser, 12 000, de la tribu de Naphtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, et de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Issacar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Après cela, verset 9, je vis une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes les tribus, de tout peuple et de toutes les langues. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des branches de palmiers à la main, ils criaient : Le salut à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des quatre êtres vivants. Ils tombèrent face contre terre devant le trône, prosternés devant Dieu en disant Amen. La bénédiction, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force à notre Dieu à jamais. Amen. Alors, l'un des anciens me demanda, « Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? » Je lui répondis, « Monseigneur, je ne sais. Et Monseigneur, c'est toi qui le sais. » Et il me dit, « Ce sont eux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu. Ils lui rendent un culte jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui est assis sur le trône les abritera dans sa demeure. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Amen.
Amen. Amen. Merci pour la lecture, Sœur Viviane. Si vous venez de vous joindre à nous, frères et sœurs, nous sommes en Apocalypse, au chapitre 7, et nous venions d'écouter la lecture du premier verset jusqu'au verset 17e. Nous nous rappelons le chapitre 7. Il est juste au milieu parce que nous avons commencé le chapitre 6 avec les sept sceaux que l'agneau a commencé à ouvrir. Le premier sceau, le deuxième sceau, et nous nous sommes arrêtés au sixième sceau. C'est pendant ce temps, avant qu'on ouvre le septième sceau que nous allons méditer demain, qu'on va nous mettre tous les chapitres concernant le peuple de Dieu. Du premier verset jusqu'au verset huitième, nous allons voir le peuple de Dieu qui concerne les enfants d'Israël, les sauvés, les réservés, les mis à part concernant les enfants d'Israël. Mais du verset 9 jusqu'au verset du 7e, là ça concerne toutes les nations, toutes les tribus, tous les peuples. Donc il y a certaines tribus qui ont toujours pensé, non mais chez nous, est-ce que nous aurons les sauvés dans nos tribus? Non, Jean a vu toutes les tribus. Il y aura des sauvés dans toutes les tribus. Donc là, nous allons commencer par partager la première partie, du premier verset jusqu'au verset huitième, concernant les enfants d'Israël. Et après, nous allons attaquer la deuxième partie qui concerne tous les païens qui sont devenus chrétiens. Quand on parle de païens, c'est ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Jacob, à la famille d'Israël. Voilà, frères et sœurs, cela dit, vous savez, dans l'esprit de méditation, il est différent de l'esprit de prédication. L'esprit de méditation, c'est dire, qu'est-ce que je tire comme leçon dans ce verset, qu'est-ce que je tire comme leçon avec ces mots, avec ce personnage, et je le dis dans très peu de temps, et je passe et je peux revenir. Quand on a l'esprit de prédication, on a difficile à dire ce qu'on peut dire en une minute, on aimerait le dire dans 5, dans 10 minutes. Donc ici nous sommes dans une classe de méditation, nous aimerions être plus conçus, mais plus concis plutôt, et plus voilà, frères et sœurs, quelques indications ou quelques orientations pour nous aider à être efficaces, à terminer tous les textes, à nous donner le temps les uns et les autres pour que plusieurs parlent entre nous, parce que nous ne sommes pas devant l'Église, devant la chair, où il n'y a que le pasteur qui prêche. Non. Nous avons besoin que toutes les richesses de tout le peuple de Dieu connecté ce soir sortent et nous pourrons édifier le monde entier qui nous suit avec le message qui est enregistré, qui est rediffusé à la radio. Donc, cela dit, il suffit d'utiliser le clavier du téléphone pour pousser sur l'étoile et le chiffre 2. Et comme je suis devant l'écran, je verrai que c'est tel frère, c'est telle sœur qui demande la parole. Même quand l'autre est en train de parler, vous pouvez déjà faire la demande de la parole. Il ne faut pas attendre que la personne termine pour que vous puissiez demander la parole. Mais si c'est la même idée que la personne qui est devant vous a déjà donnée, vous pouvez tout simplement dire « Modérateur, c'est sans objet, parce que ce que j'allais dire a déjà été dit et on peut continuer. » Merci, cela dit, frères et sœurs. Nous sommes maintenant prêts. Nous pouvons aller attaquer la première partie du premier verset jusqu'au verset 8e. Nous pouvons maintenant demander la parole avec l'étoile et les chiffres 2. Amen.
Amen.
Voilà, j'ai dit amen pour voir si je suis bien écouté. Voilà, nous pouvons commencer. Je vois la demande de la parole avec papa, pasteur José, des États-Unis. Tu y as la parole.
Oui, merci beaucoup, pasteur. Bien-aimé, je suis au verset premier qui commence par « après cela ». Après cela, après... tout ce que nous avons vu au verset 6, il y a eu, oui, pardon, au chapitre 6, où il y a eu, je dirais, ces catastrophes qui se sont suivies au verset 17. C'est la grave catastrophe, puisque le peuple voyait que personne ne peut échapper à la colère, et c'est vrai. Le grand jour de leur colère, la colère de celui qui siège et la colère de l'agneau est arrivée, et qui pourrait lui résister, c'est impossible. Ici, nous arrivons à une autre situation où on nous présente quatre anges qui se tenaient aux quatre coins du monde. Ici, nous pouvons dire que le monde n'est pas carré pour qu'on mette un ange à côté, à chaque côté, mais c'est tout simplement pour dire que les anges ont entouré la terre, et n'importe quelle direction ne peut échapper à ce qui va arriver. Parce que Dieu a placé ses anges là-bas. Donc, ici, ce qui va arriver, c'est qu'il y aura, afin qu'aucun d'eux ne souffle sur la terre, ni sur la mer, ni sur les arbres. Donc, la présence des anges, c'est pour empêcher qu'il n'y ait le vent. Un vent qui souffle. Ils sont là, envoyés de Dieu, pour garder. Et quand Dieu envoie avec précision des êtres comme ça, des anges, même des hommes, c'est que il va faire cela ou il n'y aura pas cela. Parce que il a envoyé pour empêcher. Ou bien il a envoyé pour permettre. Alors, pour notre verset, il a envoyé pour empêcher, afin qu'aucun d'eux ne souffle sur la terre, ni sur la mer, ni sur les arbres. Partout, partout, Dieu a dit non. Donc, lui, le Créateur, quand il dit non, et c'est non. Et c'est non. Donc, nous ne pouvons pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Merci.
Oui, merci. Là, nous voyons déjà la protection de Dieu qui s'étend sur toute la terre. Il n'y a pas un coin où Dieu n'a pas son regard, ses anges de retenue sont là pour la protection de toute la terre. Tout ce qui se trouve sur la terre, dans les eaux, partout, Dieu a toujours son regard. Merci beaucoup. Nous pouvons passer, soit dire quelque chose au premier verset, ou parler du saut qu'il y a au deuxième verset. Oui, Sœur Christine, tu as la parole.
Merci, papa, pour la parole. Là, comme papa vient de le dire, les quatre anges sont là pour protéger. Et le verset 2 et 3, ça va de pair. Et on a maintenant la raison pour laquelle on a envoyé ces anges pour qu'ils empêchent que le vent souffle sur toute la terre. La seule raison ici est que un autre ange qui vient, il vient donner la raison disant qu'on ne porte pas la main sur la terre ni sur les arbres parce que il y a les gens qui vivent encore sur la terre. Parmi ces gens qui vivent, il y a les bons et les mauvais. Alors Dieu est capable d'empêcher la catastrophe parce que ses enfants sont encore sur la terre. Ça me rappelle un passage qui dit que ces jours seront abrégés à cause des élus. Et comme les élus sont encore sur la terre, notre Dieu est capable d'arrêter des fléaux, d'arrêter des épidémies pour que ses enfants soient préservés. Et le verset 3 nous dit que on a arrêté toutes ces choses jusqu'à ce qu'on mette les sceaux sur les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Donc, une fois que les sceaux seront mis, je crois que Dieu pourra changer sa décision. Peut-être qu'il pourra envoyer le vent, on ne sait pas. Mais une chose est vraie, ce que je retiens ici, c'est que tant que nous serons encore sur la terre, nous, les enfants de Dieu, Dieu est capable d'arrêter des fléaux de toutes sortes pour que ses enfants ne puissent pas souffrir ensemble avec les méchants et païens. Merci.
Merci d'insister encore sur la protection de Dieu qui a le regard continuel sur tous ses enfants, sur tous ses serviteurs. Merci beaucoup. Donc, je donne encore la parole à notre sœur Dina.
Oui, merci pour la parole. Merci. Et bonsoir à tout le monde.
Bonsoir.
Oui, je voulais parler aussi du verset 2 et verset 3. Là, je vois la miséricorde et la bonté de notre Dieu. Et malgré tout ce qu'on peut faire, et il a envoyé, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué de sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et là, je vois que notre Dieu est miséricordieux. Donc, cela qui se comporte pas comme il faut, il veut quand même épargner ses mises à part. Il y a les mises à part de Dieu. Et c'est pour cela il a envoyé l'ange pour dire d'arrêter. Et parce que Dieu fait la différence à ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. C'est ce que moi j'ai compris. Et que Dieu nous aide, que nous soyons parmi ces gens, ces mis à part du Seigneur.
Amen.
Merci beaucoup, ma sœur Dina, pour ta contribution ce soir. Que le Seigneur nous aide pour ces hommes et ces femmes que Dieu connaît. Et Dieu marque du sceau tous ceux qui lui appartiennent. Et là, nous sommes encore parmi le peuple d'Israël. Et nous allons voir à partir du verset 9 que ce n'est pas seulement le peuple d'Israël qui sera sauvé. On va lui marquer d'un sceau. Je me rappelle encore comment Paul parlait aux Éphésiens, chapitre 4. De verset 30, il disait aux Éphésiens ceci: N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Quand on a le Saint-Esprit, c'est qu'on a les sceaux de Dieu, c'est ce sceau qui fait la différence entre celui qui est né de nouveau et celui qui est encore naturel, qui n'est pas né de nouveau. C'est le sceau du Saint-Esprit qui fait que dans la vision, Jean peut voir réellement qu'il y a un sceau que Dieu a donné à cet ange qui tient le sceau de Dieu, pour réellement marquer. Le sceau marque une appartenance. Quand vous avez écrit la lettre, pour qu'elle ait un caractère officiel, il faut mettre les sceaux de la société et ça devient la propriété de cette société. Et les chrétiens ont ces sceaux, tous ceux qui appartiennent à Dieu ont ces sceaux. Invisibles, mais dans le monde spirituel, ceux qui ont les yeux dans le monde spirituel voient les sceaux qu'il y a sur tous ceux qui appartiennent à Dieu.
Amen.
Donc là, si vous venez de vous joindre à nous, nous sommes en Apocalypse, chapitre 7. Nous sommes déjà arrivés jusqu'au verset 3, 2, 3. Si vous pouvez encore dire quelque chose là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais nous pouvons maintenant regarder les 144 000 des tribus des fils d'Israël. Du verset 4 jusqu'au verset 8. Est-ce que ces anges objets, sœur Viviane, j'ai vu ta main tout à l'heure.
Oui, bien-aimé, merci. Je voulais seulement poser une question. Je n'ai pas, enfin, disons que je fais une réflexion en disant ceci. Vu le nombre du peuple d'Israël aujourd'hui, ceci n'est-il pas une sélection qui serait un peu, disons, sévère? Est-ce que vraiment, de tout le peuple d'Israël, il n'y a que 144 000? S'il faut prendre tout le peuple d'Israël comme ceux-là qui appartiennent à Dieu, voilà ma question.
Voilà une question.
144 000.
Pardon?
Les peuples d'Israël. Parce qu'ici, on nous a décrit, si on regarde bien, ce sont les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus, est-ce que vraiment, au jour d'aujourd'hui, leur nombre ne fait que 144 000? Ou bien ce sont ceux-là qui sont déjà, disons, choisis? C'est une sélection de la part du Seigneur.
Voilà une belle question, notre sœur Viviane. Comme nous sommes dans la méditation, nous devons réfléchir sur des chiffres, sur des noms, sur des villes. Nous devons réfléchir sur tout. Donc, à partir du verset 4 de Apocalypse 7, on nous montre que j'entendais le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Là, ils étaient déjà marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Et nous verrons dans ce qui est cité, la tribu de Dan n'est pas là. Encore là, c'est une réflexion.
Mm-hmm.
C'est vrai, on parle de Manassé, mais on va aussi parler de Joseph. Peut-être que
dans...
Éphraïm est peut-être dans Joseph, c'est comme ça que j'étais en train de réfléchir. Bref, nous devons réfléchir, qu'est-ce que cela peut nous enseigner? Voilà, je vois la main, frère Denis, tu as la parole.
Oui, merci frère Célé pour la parole. J'aimerais seulement donner une partie de la réponse à la question de la sœur Viviane. On peut dire que les 144 000 juifs sont le premier israélite à reconnaître en Jésus leur Messie et Sauveur. Mais beaucoup d'autres suivront. Hein, nous pouvons pour cela lire Zacharie 12, versets 10 à 13, hein, qui nous montre qu'il y a d'autres qui vont suivre. Et même aussi dans Romains 11, verset 9, et il est question que donc c'est ne... Donc, le nombre va augmenter de ceux qui vont croire, reconnaître en Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur. Je pense que ça peut répondre une partie à la question de la sœur Viviane.
Oui, merci beaucoup. Donc, c'est déjà une partie de réponse que Dieu, qui est un Dieu de grâce, et Dieu qui a fait mourir son fils à la croix ne peut pas mettre un nombre figé aussi longtemps que la grâce court encore. Donc, la vision a été montrée. Là, nous avons fait une observation pour voir que même dans la vision, il y a quelques tribus, Éphraïm et Dan, qui ne sont pas là, mais les sauvés vont venir. Si après, nous allons voir à partir du verset 9, on va prendre même les nations païennes pour être couronnées, lavées dans le sang de l'agneau, à combien plus forte raison ces tribus d'Israël. Non, ce n'est pas figé, ce n'est pas une discrétion que nous pouvons vraiment conclure cela, et nous le disons avec confiance parce que nous connaissons la grâce qui a été amenée avec le salut qui est en Jésus-Christ et n'est pas limitative à cette grâce avec comme les témoins de Jéhovah peuvent nous amener un évangile sordu qu'il y a un nombre limité de ceux qui seront sauvés. Non, nous, le nombre n'est pas limité. Voilà pourquoi nous sommes appelés à parler du Seigneur pour qu'il y ait encore un plus grand nombre de sauvés parmi les païens aujourd'hui. Merci beaucoup, ma sœur Rosalie. Tu as la parole.
Merci pour la parole. Moi aussi, j'ai une question à poser. Est-ce que la Bible commence par les 12 tribus? Et je voudrais, ma question est celle-ci. Est-ce que c'est par rapport à l'alliance que Dieu a faite à Abraham? Et il lui a dit tu seras père de deux nations, une grande multitude. Et vraiment, de l'une multitude que tu ne pourras pas compter ça comme les sables de la mer. Est-ce que c'est par rapport à... La Bible commence par les 12 tribus parce que nous voyons sur le verset 9 qui dit « Après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule. La grande foule vient après le 144 la tribu d'Israël. Est-ce que la tribu d'Israël est citée avant, c'est par rapport à l'alliance que Dieu a faite avec comprendre. Merci.
Oui, merci encore là pour la question que notre sœur Rosalie nous pose. Nous sommes dans la méditation. Toutes les questions sont permises. Et nous savons bien que Dieu, dans sa pédagogie, a voulu que le salut entre dans le monde. Dans sa pédagogie, mais il n'a pas voulu utiliser les animaux, il a voulu utiliser les hommes, il fallait commencer quelque part. Il fallait commencer par un peuple. Et le peuple, c'est le peuple d'Israël, par où le salut est entré. Et c'est pour cela que nous regardons quand Jésus était en train de parler avec la femme samaritaine, il lui a tout simplement dit, le salut vient des Juifs. Pour dire, l'entrée du salut dans le monde, c'est par les Juifs. Donc, personnes peuvent ajouter cela pendant que nous sommes en train de méditer le texte, mais le salut du monde, c'est vrai, c'est par Abraham, parce que c'est là que l'alliance a commencé avec Dieu, et les Juifs sont venus par Abraham, et c'est à partir des Juifs que le salut est entré dans le monde entier. Voilà, frères et sœurs, nous continuons le partage. Là, nous avons déjà dit quelque chose sur ces tribus, 12 000 dans chaque tribu, ce qui fait 144 000. Mais ces nombres, c'est significatif, mais nous ne pouvons pas nécessairement connaître la profondeur. Des fois, des choses spirituelles ne n'auront pas à tout pénétrer et tout connaître. Et j'étais en train de me dire, quand Jean commence, il commence par la tribu de Judas. C'est pas pour rien qu'on commence avec la tribu de Judas. Parce que la tribu de Judas, l'aîné qui était Ruben, nous connaissons ce que Ruben a fait avec son père Jacob. Et c'est pour cela que c'est la tribu de Judas, c'est par la tribu de Judas que le salut va entrer dans le monde. C'est Amen. Par la tribu de Judas que Jésus-Christ va venir. Voilà, là ce que nous pouvons encore dire sur la nomination de ces différentes tribus. Oui, Papa José, tu veux passer à la deuxième partie ou tu as quelque chose à dire encore la première partie, tu as la parole.
Non, quelque chose à la première partie, c'est comme tu viens de dire, moi je vais plutôt pas ajouter le mot symbole, ce n'est pas à prendre d'une façon littérale tout ce qui est là. Ce que nous devons savoir, comme tu l'as dit, le peuple d'Israël est le peuple que Dieu a choisi, non pas ce que ce peuple mérite, mais tout simplement Dieu l'a choisi. C'est tout simplement ça. Et il y a des passages bibliques qui disent que ce n'est pas à cause de votre bonté ou de votre amour que je vous ai choisi. Non, je vous ai choisi parce que je voulais ainsi. Donc, c'est Dieu qui choisit un peuple, comme il a choisi un homme, Abraham, et les autres là, Isaac et Jacob. Et c'est vraiment, les trois hommes sont saints? Non. Quand vous regardez la vie de chacun d'eux, il y a toujours de choses à reprocher, comme nous aussi. Donc, ce n'est pas d'une façon littérale, mais c'est symbolique. Il fait ça. Et le nombre là de 12 000 ou bien 1 400, tout ça, c'est aussi symbolique. C'est aussi symbolique. Donc, ne nous attachons pas aux chiffres ni aux nombres, mais voyons plutôt le message d'une façon globale. Quel est le message? Le peuple d'Israël, d'abord. Ensuite, nous, les autres nations, les autres tribus. Donc, c'est comme ça, bien aimé. Sinon, on aura vraiment des problèmes à comprendre le livre. Ouais. Même la liste que l'apôtre Jean dresse est là. Il est vrai, il a pris Judas au début. Et le frère a dit la raison. Mais il devait suivre par les aligner par l'ordre de chronologique de naissance. Non, il n'a pas fait. Donc laissons tomber cette histoire de tribus pour chercher des raisons, tout ça. Non, voyons le message globalement. Les enfants d'Israël, d'abord, on les a vus, on a mis des sceaux, et ensuite, il y a la multitude. Nous faisons partie de la multitude. Voilà ce que je voulais ajouter là.
Merci beaucoup, Papa José. Nous allons regarder rapidement. Le temps est en train de courir. À partir du verset 9, nous voyons la deuxième partie commence aussi après cela. Donc, l'après cela, c'est une grande multitude, une grande foule que nul ne pouvait compter. Et dans cette grande foule des sauvés que nous sommes, on nous dit, on trouvait toutes les nations étaient là, toutes les tribus étaient là, tous les peuples étaient là, toutes les langues étaient là. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se tenaient devant les trônes de l'agneau, devant l'agneau, vêtus des robes blanches et des palmes à la main. Ils symbolisent les rachetés par l'agneau. Ils sont devant les trônes parce qu'ils sont sauvés. Ils sont devant le trône parce qu'ils sont, comme la sœur Dina disait tout à l'heure, ils sont déjà mis à part. Et les sceaux, eux aussi, ont bénéficié du sceau parce qu'ils sont devant le trône. Personne ne peut se mettre devant le trône s'il n'a pas reçu les sceaux de Dieu, que l'ange qui tenait les sceaux de Dieu. Voilà, nous pouvons continuer et voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ainsi de suite, comment les anges, qu'est-ce que cette multitude est en train de dire, qu'est-ce que les anciens sont en train de dire, ainsi de suite. Voilà, Papa Denis, tu as encore la parole, s'il te plaît.
Ouais, bon, le pasteur José a donné ce que j'allais aussi dire. Donc, je préfère reprendre la parole après.
OK. OK, merci. Merci beaucoup. Nous sommes en train de continuer. Ne retenons pas ce que le Seigneur nous met à cœur de partager. Nous pouvons juste utiliser l'étoile et les chiffres 2 pour continuer. Donc là, je venais de partager le verset 9. Et nous voyons que ces rachetés, ces sauvés, ces peuples marqués du sceau, ils criaient d'une voix forte, verset 10, ils criaient d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et l'agneau. Voilà les cris des rachetés, ils sont en train de célébrer le salut, célébrer. Ils ont été sauvés. Et c'est ce que nous faisons quand nous nous réunissons dans tous les cultes de célébration. Nous célébrons ce que l'agneau a accompli pour chacun, pour chacune d'entre nous. Voilà, Papa José des États-Unis, tu as encore la parole.
Oui, le verset suivant, merci beaucoup pour la parole. Bien-aimé, le verset suivant. Suivant, on nous dit que tous les anges se tenaient autour du trône. Les anciens, ou bien les vieillards, et les quatre êtres vivants, ils étaient là. Ils se jetèrent le visage contre terre devant le trône et adorèrent Dieu en disant « Amen, oui ». La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu pour toujours. Amen.
Alléluia. Amen.
Donc, nous sommes devant la louange et l'adoration de notre Dieu. Et c'est tout ce qui se passera, il n'y aura pas de prédication. on prêche qui alors? Alors, nous sommes tous des rachetés, nous sommes des élus, il ne restera que la louange à notre Dieu. Soit on parle, soit on chante. Tout ça, cette louange et cette adoration se passera par le chant, par les paroles de grâce qui sortiront de la bouche des élus pour glorifier, louer, adorer le Seigneur. Et c'est bien de commencer cela ici, sur la terre. Oui, si l'occasion nous permet de chanter, nous chantons. À moins qu'on soit malade, qu'on ait un peu indisposé, tout ça, mais on sent, on chante pour la gloire de notre Dieu, qu'on s'habitue déjà de l'ambiance qu'on aura là-bas. Je m'arrête là parce que c'est vraiment très intéressant de parler de ce que nous lisons et penser à ce qui arrivera. Merci beaucoup, frères et sœurs.
Merci beaucoup, Papa José. C'est très, très intéressant de voir ce que le serviteur de Dieu, Jean, a vu dans la vision. Et aussi, nous pouvons imaginer ce que nous faisons chaque fois que nous nous réunissons, combien nous célébrons cet agneau, combien nous bénissons et nous proclamons sa puissance, sa force, sa sagesse, la gloire. Et c'est une réalité. Et n'oublions pas que quand nous chantons, quand nous proclamons devant Dieu, il y a nécessairement quelque chose qui se passe. Quelque chose se passe. Tous ceux qui sont, tous les gouvernements qui est tout autour de Dieu, nous voyons, quand ils entendent la louange, même la louange que nous proclamons sur la terre, nous voyons combien tous les anges qui se tiennent aujourd'hui devant le trône, ils s'inclinent, ils adorent Dieu. Les versets 13 et 14 nous montrent encore combien. Alors l'un des anciens prit la parole et dit à Jean, qui sont tous ceux qui sont vêtus ici que tu vois avec des robes blanches, qui sont-ils? Au verset 14, Jean va lui répondre, non, moi, je ne sais pas, dis-moi, qui sont-ils? Alors la réponse est claire, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Et nous savons que quand, sur la terre, nous avons deux royaumes, tous ceux qui sont dans le royaume des ténèbres, ils sont sous la captivité. Et quand on quitte le royaume des ténèbres par le salut en Jésus-Christ, on reçoit un transfert, nous dit les Écritures. On passe du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et nous sommes lavés en ce moment-là par le sang de l'agneau. Ce sont les rachetés des multitudes, de ceux qui sont sauvés sur la terre, qui portent ces robes blanches parce qu'ils ont été lavés dans le sang de l'agneau. Amen.
Amen.
Nous avons encore peu de temps. Est-ce qu'il y a une personne qui peut prendre du verset 15 jusqu'au verset 17 et nous dire une leçon que nous pouvons tirer là-bas? Oui, si tu veux parler, Papa José, allez-y.
Oui, là-bas, je ne peux que lire ce qui est surtout au verset 16.
Ok.
Ils n'auront plus jamais faim ou soif, ni le soleil, ni aucune chaleur torride ne les brûleront plus. Donc, ils n'ont pas parlé de froid, ici. Et je pense que le climat sera doux. Il n'y aura pas de manteau. Oui, il n'y aura pas de manteau comme le soleil ne sera pas aussi méchant qu'ici la chaleur est torride. Mais nous pensons que il n'aura pas de place pour le froid, pour que se couvrir de manteau. Merci.
Merci. Merci beaucoup. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur. Merci. D'abord la sœur Jackie, ensuite la sœur Viviane.
Merci pour la parole, papa. Je voulais ajouter pour le verset 15 ou 17. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brillante. C'est ce que nous lisons dans la Bible, que le Seigneur pourvoit tous nos besoins.
Amen.
Nous n'aurons plus besoin de rien. Plus de larmes, plus de souffrances. Nous n'aurons plus à nous tourmenter, à nous faire des soucis, de quoi mangerons-nous, de quoi boirons-nous, de quoi nous revêtir, parce que le Seigneur, il pourvoit à tous nos besoins. Et il n'y aura que la joie, et nous serons tous ressuscités dans le Seigneur Jésus-Christ, en Seigneur Jésus-Christ, à la vie éternelle. Alors nous n'aurons plus à souffrir. Et c'est comme nous le lisons aussi dans les psaumes, où psaume 121, où il est dit « Je tourne mes yeux vers le Seigneur ». Et pendant le soleil, la chaleur ne nous frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Nous serons dans la joie, nous serons dans le bonheur de Christ, parce que nous sommes précieux à ses yeux. Vraiment, ce passage m'a beaucoup frappé de voir que nous avons de la valeur aux yeux de l'Éternel. Que tous ceux qui reviennent à lui, qui se repentent, qui sont lavés dans le sang de Jésus-Christ, nous avons le salut. Le salut ne vient pas de nos biens, ou bien de nos richesses, ou d'autres moyens. Il n'y a qu'un seul moyen où nous avons le salut, c'est en Jésus-Christ.
Merci beaucoup.
Oui, bien-aimé, je reviendrai un peu sur ce que nous venons d'entendre. Notre bien-aimé qui a précédé ma sœur a dit que là-bas, on ne parlera plus du froid, on ne parlera plus de la chaleur. Oui, le soleil ne va plus nous frapper. C'est vrai, parce que dans le verset qui a précédé, regarde le verset 15, sa dernière phrase dit « Celui qui est assis sur le trône les abritera dans sa demeure. » Donc, dans cette demeure-là, il y aura déjà une protection. C'est une demeure qui est unique en son genre. Amen. Et par ailleurs aussi, en ce qui concerne la nourriture, en ce qui concerne nos besoins, le verset 17 dit que « Et il les conduira aux sources des eaux de la vie. »
Amen.
Quiconque prend de cette eau de la vie, comme avait dit Jésus à la Samaritaine, celui qui boira de cette eau-là n'aura plus besoin d'aller chercher encore à l'épuiser de l'eau. Donc, si nous pouvons mieux regarder à la lumière de ce qui est dit, la vie qui est décrite là-bas, ce n'est pas la vie telle que nous l'avons sur terre. C'est une vie qui se passe à un niveau céleste, surnaturel. Cette vie à laquelle nous aspirons, bien-aimés, parce que chacun de nous voudrait bien compter parmi ceux qui seront à la table de l'agneau. Amen.
Amen. Amen. Beaucoup nous allons nous arrêter avec ces deux dernières interventions. Là, nous avons réellement vu combien le regard de Dieu est sur toute la terre et ceux qui lui appartiennent, qu'ils soient parmi la nation juive, qu'ils soient parmi les nations païennes, son regard est continuellement sur toute la terre. Nous avons commencé par le premier verset en regardant combien Dieu, avec tout son gouvernement des anges, ils couvrent toute la terre. Il n'y a rien qui les empêche. Comme certaines nations pensent qu'ils ont la bombe nucléaire et qu'ils peuvent effacer en un rien de temps tous les habitants de la terre, mais il n'y a que Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a le dernier mot sur la vie des hommes sur la terre. Et le contrôle est là, les cieux encadrent réellement toute la terre avec les anges. Et tous ceux qui lui appartiennent, ils sont marqués d'un sceau. Ils sont marqués d'un sceau, juifs ou non-juifs. Mais quand vous êtes sauvés, vous avez ce privilège, Dieu vous connaît. Et qu'est-ce que Dieu demande de tous ceux qui sont marqués d'un sceau, si ce n'est que le servir. Le servir dans la louange, le servir dans toutes sortes de services que nous devons et nous pouvons rendre à notre Dieu. Et où est-ce qu'il nous amène? Il nous amène vers la source des eaux de la vie. C'est là, quand nous menons la vie chrétienne à ce niveau-là, nous n'allons pas penser que, oh non, moi en tant que chrétien, je ne peux pas manquer d'argent, je ne peux pas tomber malade. Ça, c'est au niveau terrestre. Mais ce que j'ai avec Dieu est au-dessus de ce que nous sommes en train de voir avec nos yeux physiques. Et le Seigneur nous donne les yeux spirituels pour voir que la couronne, la gloire et tout ce que Dieu est en train de faire avec tous ceux qui lui appartiennent, c'est plus important que ce que nous voyons avec nos yeux physiques. Que le Seigneur vraiment nous bénisse au travers de cette méditation. Demain, nous allons maintenant aller au chapitre 8. Au chapitre 8, nous méditerons du premier verset jusqu'au verset 13. C'est tous les chapitres aussi que nous allons méditer demain. Et nous allons demander à notre frère Denis de nous recommander à la grâce du Seigneur.
Merci. Dieu notre Père, nous voulons te bénir, Père de gloire, parce que tu es celui du Tout-Puissant qui prend soin de nous, qui nous rassure éternel de gloire, par toutes tes promesses, Seigneur notre Dieu, que tu es le bon berger qui prend soin de nous, qui pourvoit à tous nos besoins, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné cette assurance d'être avec toi dans la gloire et qu'à chaque instant, Dieu Tout-Puissant, tu es celui qui assure notre sécurité et tu veilles sur nous et nous n'avons pas à nous inquiéter parce que nous appartenons à un Dieu qui nous environne de sa grâce, qui nous environne de sa présence permanente. Et nous voulons te bénir, Père de gloire, parce que nous savons que nos noms sont inscrits dans le livre des vies. Et nous sommes sûrs d'une chose, que nous te verrons face à face. Et merci encore, Père de gloire, pour ce temps que tu nous permets, des Tout-Puissants, de partager ta parole, d'être édifié. Merci pour cette richesse, Père éternel, que nous puisons encore dans ta parole, Seigneur notre Dieu. Continue encore, Père de gloire, à nous façonner pour être semblables à notre Seigneur Jésus-Christ. Tel est le but, telle est la vision, Seigneur notre Dieu, que tu as pour chacun de tes rachetés. C'est que nous ressemblons à ton Fils bien-aimé. Gloire te soit rendue, Père. Merci de bénir chacun de mes frères et sœurs. Merci, Dieu Tout-Puissant, de de visiter chacun. Seigneur notre Dieu, tu connais nos vies particulièrement, tu sais dans quel état nous sommes, ceux qui souffrent, Père de gloire, que ce soir tu nous as rappelé, Dieu Tout-Puissant, que tu es celui qui pourvoit, tu es celui qui prend soin, tu es celui qui nous comble de toutes tes bénédictions. Et nous voulons en tout cas te dire merci pour dans le nom précieux de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen.
Amen. Merci beaucoup pour la prière, Père Denis. Que la grâce et la paix, notre frère et sœur, abondent dans toutes nos familles, dans toutes nos maisons. Amen.
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 Amen.